BFM Business présente BFM Climat, l'émission. Les entreprises face aux défis climatiques. Thomas Asportas.
Bonjour, bienvenue dans BFM Climat, l'émission qui vous aide à réussir votre transition climatique. Aujourd'hui, nous serons en Bretagne, en Ille-et-Vilaine, chez Olga, une entreprise agroalimentaire derrière des marques que vous connaissez sûrement, Soja Sun, Vrai ou encore Sojade. Olga, vous allez le voir, a déjà bien avancé dans sa bascule climatique, mais elle veut aller plus loin dans les défis qu'elle s'est fixés. Notre reporter Philippe Indolbo est sur place et notre expert sera en plateau avec ses solutions. Puis nous parlerons micro-mécanique dans la deuxième partie de l'émission, mécanique de précision pour l'automobile, l'aéronautique et l'industrie en général, avec deux dirigeants qui bousculent leur modèle d'affaires pour produire plus vert, Céline Gris de Gris Group et Thierry Bizio de Crila. Et on terminera l'émission, comme toujours, avec le journal du climat d'Antoine Poincaré. Son regard tranché sur l'actu climatique. BFM Climat, on y va. Et on part donc, je vous le disais, en Bretagne aujourd'hui, en Ille-et-Vilaine, chez Olga, une entreprise agroalimentaire derrière des marques que vous connaissez très probablement, Soja Sun, Vrai, Sojade. Olga a déjà bien avancé dans sa bascule climatique, mais elle veut continuer à avancer dans sa décarbonation et dans l'économie de ressources. Philippe Indolbo est sur place avec les équipes d'Olga.
Notre premier défi en termes de décarbonation, c'est la transition de l'amont agricole. Et la première réponse, c'est la végétalisation de l'offre. Aujourd'hui, plus de 50% de notre offre produit est composée de produits issus de matières premières végétales. Pour accompagner les filières vers la transition agroécologique et la diminution de leur empreinte carbone, Olga s'est engagée. Aujourd'hui, c'est 88% des filières qui sont déjà en transition vers l'agroécologie. Au sein de ces filières, nous travaillons ici sur le site de production végétale, principalement du soja. Ce soja est 100% origine France, livré en direct sur le site de production, puis transformé par notre process propriétaire.
Bonjour Olivier Clanchat.
Bonjour.
Merci de nous avoir accueillis sur le terrain, dans votre site de Châteaubourg en Bretagne. Vous êtes le président d'Olga et vous nous avez rejoint en plateau pour qu'on vous aide à avancer notamment sur ce défi. Et c'est Corentin Biardot du Shift Project qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Corentin.
Bonjour Thomas.
Merci d'être là. On rentre dans le vif du sujet Corentin. On l'a vu, on l'a entendu, il y a deux sujets autour de cette décarbonation des matières premières. Il y a végétaliser nos assiettes, donc agir auprès de nous les consommateurs, et développer l'agroécologie auprès des fournisseurs. Quel conseil vous pouvez donner à Olivier pour qu'il avance sur ces deux sujets?
Alors effectivement, sur la partie amont agricole, en fait, les quatre grands enjeux, j'élargis un petit peu volontairement, c'est la dimension énergétique, le gasoil sur les fermes, c'est l'engrais, les engrais azotés, dont l'agriculture est très dépendante, c'est le méthane des animaux, et notamment des bovins qui permettent de faire du lait. Et il y a un quatrième levier, c'est le stockage de carbone. Et pour ça, en fait, il faut notamment garder les prairies et donc garder quand même une part d'animaux. Et donc, il y a un équilibre à trouver entre la végétalisation de l'assiette et le maintien d'une agriculture durable à ce niveau. Et en fait, on sait qu'aujourd'hui, les principaux drivers de cette évolution qui permettent cette transition agroécologique, c'est notamment lié au volet économique, en fait. Et c'est ce que montrent nos travaux, le rapport qu'on a publié en novembre 2024 pour une agriculture bas carbone, résiliente et prospère, qui montre bel et bien cet enjeu d'assumer une hausse des coûts de production pour financer la transition.
Oui, et des revenus. Olivier Clanchat, sur ce point-là, d'ailleurs, est-ce que vous avez augmenté la rémunération de vos agriculteurs? Enfin, vous allez sur ce chemin-là pour tirer toute la filière vers le haut?
Quelque part, nous, on s'est engagé dès le départ dans la bio. Là, en fait, cette année, les 50 ans d'engagement de Olga dans la bio. C'est vrai que le modèle du bio est un modèle qui permet de globalement valoriser des bonnes pratiques agricoles et quelque part augmenter les prix des produits puisqu'on a des rendements qui sont moins importants. Et pour aller un peu dans le sens de ce qui est partagé par Corentin, c'est vrai que nous, on se rend compte que globalement, on a besoin d'une logique de ferme polyculture-élevage et qu'il faut associer l'animal et le végétal. Historiquement, on était plus à maximiser la production végétale pour produire des animaux, entre guillemets. Et j'aurais tendance à dire que demain, il faudrait qu'on maximise la production animale pour produire des végétaux.
Oui, c'est ça.
Et la solution qu'amène Olga, c'est qu'aujourd'hui, on a un mix produit 50% animal, 50% végétal. Donc, on est capable, au niveau des agriculteurs, de pouvoir leur trouver une solution de débouché sur leurs produits animaux bio, puisque c'est principalement notre secteur d'activité. Et à côté de ça, pouvoir développer des filières autour des céréales pour les céréales de petit déjeuner ou des produits tels que le soja, le chanvre ou d'autres filières.
Et d'un mot là-dessus, avant de retourner sur le terrain, sur l'offre végétale, vous disiez aujourd'hui vous êtes quasiment à 50-50, vous voulez monter jusqu'à combien ?
Bah, je dirais qu'aujourd'hui, pour Olga, ben, c'est certainement continuer à progresser sur cette. Mais on voit bien qu'il y a un équilibre à trouver. Ouais. Par contre, on se rend compte que sur le marché, le végétal représente encore une faible partie de la.
Ouais. C'est pour ça que je vous demandais. Voilà,
Donc le potentiel aujourd'hui, il est significatif pour continuer à végétaliser notre alimentation et avoir cet équilibre 50% protéines animales, 50% protéines végétales. Qui est porté par les nutritionnistes.
Alors, on retourne sur le terrain avec Philippine pour voir un autre de vos défis. Là, on a parlé de la décarbonation de la filière, de l'amont. Vous voulez aussi décarboner vos émissions à vous, ce qu'on appelle le scope 1 et 2, vos émissions directes liées au transport et à la production.
Donc là, on est à l'extérieur de notre site de Châteaubourg. C'est notre plus gros site de production, celui aussi qui consomme le plus d'énergie. Et donc là, j'ai choisi cet endroit parce que derrière moi, vous pouvez discerner du coup notre éolienne qui fonctionne du coup depuis 2011 et nos ombrières photovoltaïques de parking qui ont été mises en service en 2020. Donc là, c'est plutôt sur l'aspect électrique. Les ombrières représentent 2% de la consommation électrique du site. On est sur un site qui consomme beaucoup d'énergie. L'éolienne, elle, représente 7% de la consommation du site. C'est déjà assez représentatif. C'est un équivalent 240 foyers français. Voilà pour la partie électrique. Et ce qui paye, ce qui est un peu moins esthétique, c'est notre chaudière bois, mais qui est extrêmement impactante en termes de décarbonation parce qu'elle permet de réduire de 80% les émissions de carbone du site, ce qui fait que notre site, on a réduit au global en fait de 50% ses émissions de CO2 en l'espace de quelques années. Olga, disposant de sa propre flotte logistique, une autre partie de ce défi finalement, c'est aussi de venir décarboner cette partie fret. Pour cela, Olga, ça fait 20 ans en fait qu'on utilise du biocarburant. À la base, on a commencé avec le diester, un carburant qui était 15% décarboné par rapport à son équivalent gasoil. Et depuis juillet 2024, on est passé sur une nouvelle technologie, le HVO100, qui lui est un carburant à 80% décarboné par rapport au gasoil. C'est un carburant issu du recyclage d'huiles usagées.
Quentin, là aussi, on l'a entendu, deux défis en un. À chaque fois, vous, c'est du dorme. Décarboner les transports et décarboner les activités industrielles. Là aussi, quel conseil vous pouvez donner à Olivier ?
Ben, comme Olivier l'a déjà engagé, effectivement, l'électrification, c'est le premier vecteur de décarbonation. Le deuxième aspect, c'est effectivement l'utilisation de biocarburants avec les enjeux de logistique. Le problème qu'on pressent, et c'est ce que montrent nos travaux, encore une fois, la modélisation qu'on a menée, il va y avoir des tensions sur les biocarburants liquides, globalement sur tous les carburants liquides. Et donc, on va avoir des enjeux d'arbitrage. Et on pense qu'il y a un rôle à assurer que l'ensemble des secteurs économiques qui se décarbonent de façon cohérente. Parce que on ne pourra pas répondre à toutes les demandes demain. Et sans doute, l'électrification, partout où c'est possible, est un meilleur vecteur que l'électrification, que les biocarburants à long terme. Néanmoins, c'est déjà un superbe effort qu'Olivier a pu faire.
Olivier Clanchin, donc là, énergie renouvelable, biomasse, biocarburant, est-ce que toute cette énergie verte, aussi vertueuse soit-elle, vous coûte plus cher ?
Ah oui, elle nous coûte plus cher, mais globalement, c'est un investissement pour le long terme. La logique, c'est justement, une fois qu'on a installé l'éolienne, elle est là pour quelques années, idem pour les panneaux photovoltaïques. Après, on a bien vu que j'aime bien cette logique de contrainte qui crée une opportunité. La crise qu'on a vécue en Ukraine, l'augmentation des cours des énergies, ont amené une pertinence et une performance quelque part à cette logique d'énergie renouvelable. Et donc, après, je pense que la meilleure des énergies, c'est celle qu'on consomme pas.
Oui, il y a ça.
C'est de quelle manière aussi on amène une efficience au niveau de nos équipements. Et là, encore une fois, cette contrainte opportunité nous a motivé à aller plus loin. Et sur les trois dernières années, globalement, au niveau d'Olga, on a réduit nos consommations de 15%. Donc après, on a 20% aujourd'hui de notre énergie qui est de l'énergie renouvelable, produite par nous-mêmes. Voilà, donc on est sur le chemin. On sait qu'il va falloir continuer à avancer, expérimenter, comme on le disait, avec, on sait aussi, une logique d'équilibre. Et puis voir de quelle manière aussi avec le monde agricole, parce qu'il y a une capacité sur le monde agricole à pouvoir produire des biocarburants. Donc voir de quelle manière tout ça peut se mettre en mouvement.
Alors, on reste en mouvement, on retourne sur le terrain une dernière fois avec Philippine pour voir un dernier défi que vous voulez relever, et il est très important et loin d'être évident, c'est d'innover dans le packaging pour économiser les ressources.
On sait qu'aujourd'hui, donc on est des gros consommateurs de plastique quelque part.
Et c'est vrai que ben, nos produits, alors on peut faire des gros pots, mais on fait aussi des petits pots, et qu'il y a un sujet justement sur ces emballages, de quelle manière on puisse aller vers des emballages plus vertueux. Donc on travaille sur des solutions biosourcées et aussi on travaille sur, je dirais, la réutilisation. Donc aujourd'hui, on a pu développer en avant-première donc un produit où donc à l'intérieur, en fait, on a un carton qui rigidifie le plastique pour mettre moins de plastique. Et donc aujourd'hui, donc on est capable de faire du plastique, donc c'est du PP, et c'est recyclé. 50% de ce pot a été fait à partir de plastique recyclé. Donc on est vraiment dans cette dynamique de réduire le plastique déjà avec le carton autour, mais aussi recycler le plus possible la matière première plastique au niveau de ces produits.
Alors Corentin, il nous reste moins de 2 minutes. Là aussi, vos conseils très pratiques, très concrets, Olivier, pour qu'il puisse avancer sur ces questions d'emballage et de packaging.
Alors, quand on parle de déchets, en général, la règle, c'est les 3 R. Olivier en a cité 2, il y a réduire. Ensuite vient l'idée de réutiliser, qui n'a pas encore été évoquée, puis recycler les déchets finaux. Alors, on sait que les déchets pour les ménages, ça représente entre 20 et 30%. Le reste étant constitué des déchets industriels, des emballages industriels. Mais la spécificité des déchets des ménages, c'est qu'ils sont les plus éparpillés et donc les plus difficiles à recollecter, revaloriser. Et donc, pour ça, une proposition que je fais à Olivier, s'il l'a pas encore étudié, c'est la consigne. Il faut regarder au cas par cas, ça répond pas à tous les besoins. Et en fonction des secteurs et des enjeux, ça peut ne pas forcément être positif. Ouais. Mais en tout cas, c'est dans ce qui a été évoqué, c'est le levier qui manque si on voulait rajouter quelque chose.
Alors, Olivier Conchin, vous réfléchissez à cette question de consigne. On en parlait avant l'émission, mais vous me disiez, j'ai pas la réponse toute faite, parce que je sais pas si je dois faire de la consigne localement, en national, si c'est plus loin, du coup, il y a les émissions carbone liées au transport. Enfin, c'est une question en elle-même aussi assez compliquée à résoudre.
Exactement. Et là aussi, je pense qu'il faut vraiment avoir beaucoup d'humilité vis-à-vis de cette problématique. Moi, j'ai fait la Convention des entreprises pour le climat, la CEC, qui prône l'économie de la coopération. Et le fait de se dire, moi, un autre, ben, j'ai cette motivation. Par contre, je sais pas comment faire. Et se dire aussi avec son écosystème de quelle manière on peut réinventer quelque part le modèle, revisiter la création de valeur, parce qu'à un moment donné, l'entreprise elle peut pas faire tout toute seule en fait. Donc si on parle de recyclage ou de consigne, il va falloir trier, il va falloir nettoyer, il va falloir utiliser, réutiliser. Donc il y a des outils à mettre en place. Et je pense que c'est une vraie opportunité pour qu'un territoire, un bassin de vie, puisse s'en emparer et que collectivement on porte ce projet.
Bon, et bien vous reviendrez nous en parler, nous dire comment est-ce qu'on avance sur ces sujets-là. Merci, merci infiniment à tous les deux. Corentin Biardot du Chief Project, Olivier Clanchin de l'entreprise Olga. Allez, on a parlé agroalimentaire, on va parler micro-mécanique et industrie à présent. Allez, on parle micro-mécanique, mécanique de haute précision avec deux dirigeants du secteur qui bousculent leur entreprise et leur modèle d'affaires pour l'adapter au climat. Bonjour Céline Gris.
Bonjour Thomas.
Merci d'être avec nous aujourd'hui dans BFM Climat. Vous êtes la PDG de votre entreprise, Gris Group, en Meurthe-et-Moselle. Et avec vous, Thierry Bizot, bonjour.
Bonjour Thomas.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le PDG de Crida à Besançon. Thierry, je commence avec vous. Question que je pose toujours pour lancer les discussions dans cette séquence en équipe. Concrètement, qu'est-ce que vous avez changé dans votre entreprise, dans votre modèle d'affaires pour engager la bascule climatique ?
Alors déjà, la bascule climatique, nous, on l'a vu sur le plan de la partie, on va dire, de l'humain. Donc, on a participé à la Convention des entreprises pour le climat pour prendre conscience des enjeux. C'est un groupe, c'est un collectif qui nous permet de pouvoir vraiment voir la situation telle qu'elle est. On était dans une phase compliquée avec la pandémie, une acquisition qui s'est pas bien forcément passée. C'est un groupe qui est en expansion. Et en fait, aujourd'hui, on est dans un modèle où des gens de l'intérieur, suite à ce parcours, ont pris le leadership sur la partie notamment RSE pour mettre en application un certain nombre de choses. Déjà, tous nos bilans, les diagnostics écoflux, avoir la base de pouvoir effectivement s'améliorer. Des labels de biodiversité sur lesquels maintenant on est labellisé. Donc, il y a beaucoup de petites actions. C'est beaucoup de petits pas. Les déchets, on a 90% des déchets maintenant qui sont complètement traités. Donc ça, c'est des questions concrètes. Mais on est sur le chemin. On est au début du chemin.
Alors, début du chemin. Idem chez vous, début du chemin. Comment est-ce que vous avez démarré les choses chez Gris Group ?
Alors, il faut dire que nous, on est une entreprise familiale. Et donc, en fait, mon père avait déjà démarré depuis 20 ans le fait d'être 14-1 pour l'environnement et d'être membre du Global Compact, donc avec les ODD, donc les Objectifs de Développement Durable. Donc, ça fait 20 ans qu'on fait une communication annuelle. Moi, du coup, après, j'ai pris en main, il y a 5-6 ans, le sujet RSE, mais je ne savais pas trop, parce que je savais que ça devait être porté par la direction.
Oui, tout à fait.
Mais en même temps, c'est à tort de penser que ça. C'est-à-dire qu'il faut embarquer tout le monde. Je reviens sur le sujet aussi des équipes. Nous, on n'est pas dans la CEC, on a plutôt été accompagnés dans les programmes accélérateurs décarbonation BPI France, donc très communautaire, Coq Vert.
Et en fait, du coup, on est passé.
Voilà, en fait, on est passé par le côté séminaire très élargi du comité de direction pour sensibiliser tout le monde. Ça prend 3, 4, 5 ans, en réalité. Il faut, quand on commence à démarrer, on a les réfractaires.
Pour embarquer, pardon, combien de collaborateurs ?
Au départ, alors on est 290 aujourd'hui, on a trois entités. On démarre par la base, les gens les plus proches. Mais ça prend du temps parce qu'il faut sensibiliser des gens qui ne le seraient pas. Donc il y a les gens embarqués, il y a les neutres et puis il y a les autres. Et aujourd'hui, on a créé une commission RSE. En fait, c'est le seul moyen, c'est d'avoir une instance dans laquelle on peut déverser, on va dire, toutes les thématiques.
C'est quoi, un COMEX RSE, comme vous dites, une commission
RSE? C'est plus large parce qu'en fait, on a des gens aussi bien de la direction que des salariés d'une équipe dans un département qui ont envie. En fait, et d'ailleurs, on prend conscience de qui est moteur en fait sur ces thématiques et sur qui on peut...
Intéressant, ça, ces questions de gouvernance et de leadership sur le sujet. Toute dernière question, après je vous redonne la parole, bien sûr, Thierry. Vous le réunissez, parce que c'est très concret justement pour ceux qui nous regardent, vous le réunissez tous les...
Mensuel.
Cette commission.
Alors, là,
une fois par mois, vous avez...
Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des sujets très très importants comme travailler la politique de responsabilité, le code de conduite et d'éthique, enfin, tous les attendus dans le système de management aussi et de nos clients exigeants automobiles. Et puis des petits sujets de covoiturage, de gestion des cigarettes, des mégots, des choses comme ça en fait. Et puis les emballages et le très concret industriel.
Thierry Bizot.
Alors c'est exactement, nous on est aussi dans cette manière de l'avancer avec un comité RSE, avec une personne encore une fois de l'interne, et moi je mets aussi toute ma puissance, tout mon poids aussi pour que les choses bougent, et on a tous ces petits pas dont Céline parlait, et à la réflexion en fait, le bâtiment que j'ai construit en 2009 était le premier bâtiment et le premier bâtiment en France en géothermie profonde, donc j'étais déjà... Parce que c'est intéressant, on a discuté ensemble, et c'était déjà un premier pas, si vous voulez, dans une forme de décarbonation, une prise de conscience.
D'ailleurs, nous, on a un bâtiment passif depuis 2018, ça a été aussi une conviction dès le départ de se dire, on construit pour les 20 ou 30 prochaines années, donc il faut le faire de manière durable.
Alors, Thierry Bizot, vous le disiez, vous étiez dans la CEC. Là, on parle du point de départ... préserver les ressources, décarboner, tous les bilans dont vous parliez, à la fois sur l'énergie et sur la biodiversité. Il y a des dirigeants qui essaient d'aller plus loin, c'est très compliqué, qui veulent reconstituer des ressources, qu'on appelle du régénératif. Est-ce que l'un et l'autre, vous en êtes là ou pas encore ?
Alors, on n'en est pas encore là, clairement. Par contre, j'ai réfléchi, donc j'essaye d'échanger pour le moment avec mes clients. Nous, on est dans un modèle d'affaires où, en fait, on fait des composants pour l'électrification des avions, notamment toute la connectique.
Oui, l'essentiel de vos clients, c'est
l'aéronautique. Donc, finalement, on est dans le move. Quelque part, on pourrait dire, super, on est très bien. Sauf que vous savez que les mines de cuivre, à un moment donné, sont pas pléthores et qu'il y aura des problématiques, certainement, sur ces matières premières. Donc, ça demande aussi une réflexion en amont pour accompagner, finalement, ce changement de business model, et puis donc déjà de modifier peut-être les composants du futur et faire avec moins, et surtout être en capacité de pouvoir recycler tous ces déchets, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, ce qui est très compliqué.
D'accord.
Donc il y a beaucoup de choses qui manquent, mais qui sont du côté du législateur ou des grands groupes. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on peut pas... On fait beaucoup de choses au niveau des PME, mais il y a des choses qui doivent être faites au niveau des États et des grands groupes.
Et des donneurs d'ordre. Mais alors,
parce que ce que je veux dire, c'est qu'en fait, nous, nos industries manufacturières, nos bilans carbone, c'est 77% les intrants, et donc notamment l'acier. Alors, on a la chance d'avoir un acier qui est quand même un beau matériau, puisqu'en fait, il est recyclable quasiment à l'infini. Par contre, il y a une vraie problématique de... Nous, on achète des aciers nobles au carbone, avec en fait une composition et des nuances très, très, très spécifiques. Et là, par exemple, on fait un gros travail. Alors, presque inverse par rapport au passé, c'est-à-dire qu'avant on avait des chutes de ferraille au pied de chaque machine. On a investi pour être plus productif dans un convoyeur global qui jette toutes les chutes dans une même benne. Et aujourd'hui, on reviendrait à l'inverse pour en fait revaloriser de manière pertinente en fait nos aciers, où on va y avoir trop de manganèse ou de chrome ou de carbone, ce qui ne peut pas être remis dans une filière par exemple de fabrication d'acier avec de l'acier recyclé et de filière électrique. Donc en fait, il faut revenir à une séparation, et donc en fait on va faire le chemin inverse, mais pour valoriser en fait l'acier et qu'on puisse aller aider, on va dire, les fabricants d'acier en amont, hein, c'est parce que c'est eux qui ont entre leurs mains en fait l'activité la plus carbonée, et pour pouvoir passer des hauts fourneaux à quelque chose.
Et est-ce qu'ils vous suivent justement là-dessus ? Parce que vous, on vous entend, on voit bien que vous êtes engagé, que vous avez des idées, que vous voulez avancer. Mais est-ce que tous vos fournisseurs vous suivent là-dedans ? Est-ce que ça les intéresse vraiment ?
Alors nous, on a des gros fournisseurs, de grande taille et des clients de grande taille, principalement américains. Non, ils suivent pas. Ils suivent pas et ils élaborent pas. Quand je pose la question, c'est qu'aujourd'hui, ils disent que leurs centres de développement de certains sont en Inde, très bien, mais qu'il y a pas ce sujet n'est pas au centre de leur préoccupation.
Ouais. Donc il faut savoir parce que ça coûte trop cher ou parce que ça les intéresse.
Parce qu'ils ne voient pas loin. Et en fait, quand on échange avec Céline, et on voit qu'il manque une vision long terme. C'est une vision long terme qu'il faut avoir pour pouvoir savoir comment on va finalement avancer tous ensemble. Et ça n'existe pas. Mmh. Ça n'existe pas parce qu'il y a pas assez de collaboration. Parce que les grands groupes restent des grands groupes. Nous, on a des groupes de 40 milliards. On est fournisseur d'Airbus, de Dassault. On est fournisseur aussi d'Américains dans la connectique. Et alors, je ne dis pas que Dassault et Airbus ne font pas des choses. Au contraire, je pense qu'eux, ils font des choses. Mais des fois, ces Américains-là ne font pas.
Alors, je ne veux pas non plus
systématiser, mais il n'y a pas une prise de conscience. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que nos composants, si un jour on a une pénurie de matière, au-delà, il n'y a plus un avion, il n'y a plus une voiture qui.
Après, moi, je pense que les fabricants d'acier sont quand même dans la démarche. Hein, je veux dire, ils n'ont pas le choix. Alors après, les législateurs imposent. Il y avait la CSRD. Tous les grands groupes doivent être en mouvement. Ce qui est plus difficile, c'est plutôt les petits sous-traitants ou fournisseurs. Alors nous, je parlais plutôt, par exemple, du traitement thermique ou du traitement de surface. Où là, en fait, c'est des petites entreprises, en fait, qui n'ont pas les ressources. Donc là, nous, on est plutôt dans ce que les grands groupes nous imposent. Nous, on essaye de faire la même démarche de manière un peu plus, on va dire, smart. Ouais. Et en fait, en les accompagnant avec des questionnaires RSE aussi, et en essayant de mesurer comment on peut les aider dans la réflexion aussi, parce que nous, on l'amène. Donc, il faut faire du partage, il faut travailler vraiment tous ensemble au niveau de la chaîne de valeur. Quoi.
Tout d'un, ouais, allez-y.
Ce que je veux dire, c'est que c'est une responsabilité partagée, parce que dans une filière, on est tous sur un même marché, et on est tous en responsabilité. Donc, c'est une prise de conscience du global qu'il faut avoir. Il faut avoir une analyse systémique des choses, et non pas une analyse parcellaire et silotée. Donc, il faut redécloisonner pour se reparler, etc. Et donc, c'est un travail que moi je mène au quotidien. Je suis vraiment engagé dans ce décloisonnement.
Mais sur du très concret, si je peux me permettre, nous aujourd'hui, l'idée dans le modèle d'affaires, c'est qu'on veut proposer un catalogue de matières premières décarbonées à nos clients. Ouais. Dire, bah oui, ça a peut-être un coût supplémentaire, mais on est capable d'eux. Avec une énergie verte, parce qu'on a des contrats d'énergie verte, avec des produits à nous qu'on estime pouvoir vendre en 100% green, charge aux clients d'être capable ou pas de mettre le prix.
Ouais. Et c'est souvent la question qui revient dans BFM Climat, la valeur verte, mais on en reparlera. Merci beaucoup à tous les deux, Céline Gris de Gris Group et Thierry Bizio de Crila. Allez, on accueille maintenant Antoine Poincaré pour son journal du climat. Bonjour Antoine.
Bonjour Thomas.
Directeur de l'AXA Climate School. On part aujourd'hui Antoine pour démarrer ce journal aux États-Unis où les apiculteurs font face à une véritable hécatombe. 70% des abeilles sont mortes dans le pays en ce début de printemps.
Oui, les chiffres sont terribles et ils mettent en danger l'industrie de l'apiculture, bien sûr, mais aussi, en fait, toute l'industrie fruitière américaine. Au début des années 2000, les taux de mortalité pour les abeilles étaient d'environ 15%. Ça peut être dû à la météo, à des maladies ou aux pesticides, évidemment. D'un coup, en 2007-2008, ce taux a grimpé à 40-45%. D'un seul coup, on ne sait pas exactement pourquoi encore. On a appelé ça le colony collapse disorder. Et depuis, la mortalité, eh bien, elle n'est pas redescendue. Il a fallu subventionner les apiculteurs pour qu'ils puissent continuer à opérer. Et cette année, eh bien, nouveau bond, la mortalité atteint 70%. On ne sait toujours pas pourquoi. C'est un peu la panique du côté des apiculteurs. Mais pas seulement du côté des apiculteurs, parce qu'il faut savoir qu'aux États-Unis, eh bien, les abeilles, elles servent à polliniser les arbres de manière payante. Les apiculteurs louent leurs arbres aux producteurs. En ce moment, ce sont les amandiers en Californie qui ont besoin d'abeilles. Donc, on les amène jusqu'en Californie pour polliniser les arbres. Sans ça, les rendements chutent de 90%. Donc, c'est la panique. On ne sait pas exactement tout ce qui se passe. Tout le monde essaye de comprendre. Les enjeux sont énormes. 350 millions de dollars, ça c'est l'industrie du miel aux États-Unis. C'est beaucoup, mais c'est pas colossal. 17 milliards de dollars, ça c'est la valeur de ce que pollinisent les abeilles chaque année. Il est donc urgent de comprendre d'une part et puis de sauver nos abeilles.
Ouais, urgent de sauver les abeilles, urgent aussi de sauver nos forêts. On a encore perdu 6 millions d'hectares en 2023 à cause de la déforestation. Et le Brésil aurait trouvé une solution qui voudrait annoncer lors de la prochaine COP30.
Oui, le Brésil aurait une piste, il s'agirait de sauver les forêts en utilisant la bourse. Alors vous allez voir, je vous explique. L'idée, ça serait qu'il faudrait payer les pays qui hébergent de grosses forêts tropicales pour ne pas déforester. Ce montant, il est estimé à 4 milliards de dollars par an, c'est quand même pas mal d'argent, donc il faut le trouver. L'idée du Brésil, ça serait de demander aux grands États riches, à la COP de Belém qui arrive, de placer 25 milliards de dollars en prêts à taux très très bas. Donc vous récupérez ces 25 milliards, ensuite avec ça vous allez voir la Banque mondiale et vous dites bah, j'ai 25 milliards, est-ce que vous m'en prêtez 100 de plus? Donc à ce moment-là, Thomas, vous êtes à la tête de 125 milliards de dollars, c'est pas mal, et vous créez alors un fonds d'investissement qui s'appellerait le Tropical Forest Forever Facility. Avec cet argent, vous allez sur les marchés, la bourse, comme vous et moi, et vous empruntez à 5% d'un côté, vous espérez gagner à peu près 8%, le delta, ça vous génère 4 milliards de dollars de bénéfices par an, et avec ça, eh bien, vous payez les pays qui ont les forêts tropicales. Alors les détracteurs de ce projet soulignent deux limites. La première, c'est que pour gagner 8% sur les marchés boursiers, eh bien, il faudrait placer dans des entreprises qui elles-mêmes pratiquent la déforestation. C'est un peu le serpent qui se mord la queue. La deuxième limite, c'est qu'évidemment, tout ça, ça repose sur la croissance des marchés. Si ça ralentit un peu, eh bien, il n'y aurait plus assez d'argent pour protéger les forêts. Ceux qui défendent le projet, de l'autre côté, ils disent que c'est toujours ça de prix. Ça fera toujours quelques années où ces 4 milliards de dollars auraient plutôt servi à protéger les forêts qu'à les détruire. Affaire à suivre.
Affaire à suivre. On termine, Antoine, avec une nouvelle étude sur les conséquences économiques du changement climatique, cette fois-ci qui nous vient d'Australie, et qui nous dit qu'en cas de réchauffement à plus 4 degrés, le scénario central, le PIB mondial s'écroulerait de 40% d'ici à la fin du siècle. C'est 4 fois plus que ce que disaient les précédents modèles. Comment expliquer cet écart, Antoine ?
Alors, vous allez voir, c'est très simple. Jusqu'à maintenant, les modèles qui servaient à financer, à justifier le coût du changement climatique fonctionnaient de manière locale. Donc, une catastrophe naturelle locale, par exemple les inondations à Valence, a un impact sur le PIB espagnol. Ensuite, on sommait tous ces PIB nationaux, on arrivait à un chiffre 10%. Mais évidemment, ça marche pas comme ça. À cause de la mondialisation, quand il y a des inondations à Valence, ça a un impact beaucoup plus large sur plein d'autres États. Quand on prend en compte ce facteur mondialisant, c'est ce qu'ont fait les chercheurs australiens, on arrive dans le scénario du pire, ce scénario à plus 4 degrés du GIEC, à un coût de 40% du PIB. C'est globalement aligné avec ce qu'avaient prévu les actuaires anglais qui avaient sorti une étude il y a quelques mois qui parlait, elle, de 50% du PIB mondial à horizon 2070. On commence donc à savoir combien ça va nous coûter, ce changement climatique, et ça devrait nous inciter à agir beaucoup plus vite.
Merci beaucoup Antoine et merci à vous tous de nous avoir suivis dans BFM Climat. Merci aussi à la Convention des entreprises pour le climat pour sa contribution à la préparation de cette émission. À très vite, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro et d'ici là, on garde contact sur notre appli, en podcast et sur les réseaux sociaux. À la semaine prochaine.
BFM Climat, l'émission sur BFM Business.